Bonjour, vous êtes sur RDC, Radiodiffusion Charentaise. Vous êtes sur RDC avec Stéphane, RDC 93.4 et 92.5, ou bien sur le site www.radio-du6rdcfm.com. Il est l'heure de l'émission Donnez-nous vos notes. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Une note, des notes, donnez-nous vos notes. Des notes, des bonnes notes, donnez-nous des bonnes notes, rien que des bonnes notes, donnez-nous vos notes. Passeurs et passeuses de rêves, donnez-nous vos notes. Passeuses et passeurs d'émotions, donnez-nous vos notes. Musiciens, musiciennes, magiciens des sons, magiciennes des sons, magiciennes des mots, magiciens des mots, donnez-nous vos notes. Chanteurs ou chanteuses, instrumentistes, en solo comme en groupe, donnez-nous vos notes. Donnez-nous vos notes aujourd'hui sur les ondes de RDC, Radiodiffusion Charentaise, 93.4 et 92.5, sans oublier le site www.radio-du6rdcfm.com. Qui veut bien nous donner ses notes aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est Bruno Tocane, c'est lui qui a accepté de nous donner ses notes. Auditrice, auditeur, bonjour, bienvenue sur les ondes de RDC 93.4 et 92.5 pour l'émission Donnez-nous vos notes que j'ai le grand plaisir d'animer. Je ne doute pas que vous aimerez recevoir les notes que Bruno Tocane va aujourd'hui nous donner, que dis-je, nous offrir. Auditrice, auditeur, je vais vous dire combien je suis touché par les nombreux témoignages que vous nous envoyez pour dire votre satisfaction à l'écoute de Donnez-nous vos notes. Bonjour Bruno Tocane.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, jeudi 23 novembre. Merci d'avoir répondu à l'invitation de RDC. Bonjour Jean-Marc, merci aussi à toi pour la technique que tu sais toujours déployer au bénéfice de toutes celles et de tous ceux qui sont à l'écoute. Et merci également du soutien sans faille que tu apportes à l'animateur que je suis. Alors donc aujourd'hui c'est Bruno Tocane qui se prête au jeu, c'est lui qui va nous dévoiler son parcours, son choix d'entrer dans l'univers de la musique, sa formation, ses rencontres avec d'autres, ses envies, ses goûts culturels, artistiques, musicales et musicaux bien sûr. Le tout sera sans doute teinté de l'expression d'un besoin de partage musical comme humain. Bruno va nous dire comment il vit avec la musique, mais aussi comment la musique opère sur lui, ne serait-ce qu'à travers l'influence qu'elle a sur lui, sur sa personne, sur son entourage peut-être. Bruno Tocane va nous guider vers sa compréhension de la musique, sans doute celle qui permet l'écoute de soi, l'écoute de l'autre, l'écoute des autres. Bruno, vous êtes prêt?
Oui, absolument.
Alors Bruno Tocane, donnez-nous vos notes. Vous êtes bien sûr RDC pour Donnez-nous vos notes. Tout d'abord, Bruno Tocane, qui êtes-vous?
Qui suis-je? Je suis un musicien, avant tout, qui joue de la batterie, mais c'est un peu réducteur, donc je suis plein de choses, en fait.
C'est-à-dire? Allez, donnez-nous quelques illustrations de ce plein de choses.
Je suis à la fois, maintenant, organisateur d'un festival, je suis un membre de la fédération des labels des allumés du jazz.
Alors, excusez-moi, mais il y a des mots que je ne comprends pas. Un label, faut m'expliquer.
Alors, ça. Un label, c'est un label discographique, en fait.
D'accord. Hein.
Donc, c'est une fédération de labels dits indépendants.
D'éditeurs
De producteurs de disques, voilà. En fait.
Merci.
Puisque j'ai aussi un label. Je suis aussi directeur artistique d'un label.
Donc plusieurs cordes à votre arc.
Oui, j'ai toujours eu ça.
Plusieurs cordes à vos baguettes, tiens, je vais aussi
oui,
dire,
voilà,
pardon.
C'est bien.
Ouais. Alors, parisien d'origine, né à Paris?
Je suis né à Paris, effectivement, et j'ai habité la région parisienne pendant quelques décennies.
Et comment on passe de Paris à la Charente? Quelques éléments de votre parcours,
oui.
Au moins géographiques.
Ben, en fait, je suis passé par le Beaujolais.
Belle région.
Oui, très belle région, dans les monts du Beaujolais.
Du Beaujolais au Cognac, voilà,
voilà
le sous-titre.
Exactement.
Ma vie, mon œuvre, Bruno Tocane.
Ben, j'avais envie de bouger, pas comme beaucoup de gens qui habitent la région parisienne. On est beaucoup de musiciens, en plus, à être partis. À partir du moment où il y avait la possibilité de... À l'époque, c'était les fax. Enfin, ouais, il y avait des possibilités de quitter Paris et de continuer à travailler sans être à Paris, quoi. Puis une fois qu'on a fait 10 fois la rue des Lombards à Paris, c'est-à-dire les clubs de jazz de la rue des Lombards,
bien sûr.
Bon, il y a un moment, on a envie de voir autre chose. Quoi.
Pas de regret, pas de remords?
Ah, aucun.
Eh bien écoutez, merci beaucoup de cette introduction, Bruno, merci de cette entrée en matière. Matière, tiens, la matière de l'émission, donnez-nous vos notes, je vous le donne en mille, c'est la musique bien sûr, et la matière ce sont les notes que les invités donnent, que les invités offrent, et Bruno, je gage que les notes que vous allez nous donner, nous offrir, seront teintées de jazz, je me trompe?
Non.
Mais le jazz, tout un chacun a entendu ce mot, tout un chacun peut l'utiliser. Est-ce qu'on pourrait imaginer, Bruno, une définition, pour vous en tout cas, du mot jazz ?
Non. Je vais être assez clair. Non, mais moi, le problème, en plus, je fais partie d'une génération qui est arrivée au jazz par le rock, comment on appelait ça, des années 70, en fait. C'est-à-dire, en fait, moi, au départ, j'écoutais et je jouais du Led Zepp, du Jimi Hendrix ou des choses comme ça, jusqu'à ce que je découvre via Soft Machine ou des groupes comme ça, ou Carla Bley, d'ailleurs, aussi, et qui m'ont fait arriver directement de la pop au free jazz, en gros. Et donc le jazz est venu après, en fait.
Ah d'accord. C'est tout et pourtant, certains se sont essayés à donner une définition du jazz. Alors, se sont essayés. Hein. Oui. On peut parler de Joachim Herzberen, par exemple, un critique qui disait que le jazz est une forme d'art musical originaire des États-Unis, née de la confrontation, j'aimerais mieux dire de la rencontre, mais je prends ces mots, oui, entre la musique des esclaves noirs et celle des Européens. Ça vous parle, ça ?
Oui, oui, c'est tout à fait juste. Parce que j'étais aussi prof de l'histoire du jazz, donc je confirme, dans un conservatoire. Donc effectivement, ça dépend si on parle de la définition d'origine ou de ce qu'est le jazz maintenant. Parce que je serais bien en peine de donner une définition des jazz, j'allais dire, à l'heure actuelle.
Avec l'évolution de spatio-temporel, oui, dans l'espace et dans le temps, finalement, hein, c'est ça.
Oui, mais tant mieux. C'est peut-être ça, sa caractéristique. C'est effectivement une musique qui bouge avec son temps, en fait, alors, qui à chaque fois intègre des nouvelles choses. Quoi.
Et c'est ça qui me semble intéressant, oui, la richesse, le partage dont je parlais tout à l'heure. Et puis, ce critique soutient aussi l'idée selon laquelle le jazz diffère fondamentalement de la musique européenne, car il suppose une spontanéité et une vitalité dans laquelle l'improvisation joue un rôle majeur, une sonorité, un phrasé musical qui reflète la personnalité du jazzman, et puis une relation particulière au temps exprimée par la notion de swing. Vous êtes plutôt d'accord ?
Non. Ah. Non, je suis d'accord sur toute la moi, c'est le problème du swing. C'est pour ça que j'hésite à donner une définition,
oui,
parce que je trouve que c'est très réducteur de réduire le jazz au swing. Effectivement, originellement, c'est vrai, mais moi je fais partie des batteurs qui cherchent à sortir depuis toujours de cette seule notion de swing. Le swing, c'est moi je préférerais parler du groove ou du... Oui, du groove, ça paraît.
Le groove, c'est ressentir les choses ensemble.
Oui, c'est ressentir les choses ensemble. Puis c'est aussi une façon de chercher à aller au-delà du temps. Enfin, moi j'ai beaucoup travaillé, je continue à travailler sur ces notions de... comment expliquer ça ? D'aller au-delà du temps, c'est-à-dire de ne pas avoir une vision mathématique du temps.
Donc
de l'étirer un peu comme les musiques orientales, en fait, qui ont des notions du temps beaucoup plus élargies.
Le feeling, je veux dire, le ressenti,
oui,
l'improvisation,
feeling,
on y revient.
Mais sur tout le reste, je suis bien d'accord, effectivement. D'accord. C'est l'improvisation, c'est le... Moi aussi, il y a une notion, c'est la notion de collectif, en fait, qui me tient beaucoup à cœur.
Alors ça, c'est Travis Jackson, parce qu'il donne aussi une définition, qui dit que le jazz est une musique qui réunit des qualités telles que l'improvisation, les interactions entre les musiciens, oui, d'un groupe, le développement d'une expression personnelle et l'ouverture à différentes possibilités musicales. On entend ici comme une présentation de différents genres ou de différents courants, styles du jazz que vous avez évoqué tout à l'heure, en disant que vous seriez bien en peine de donner actuellement une définition, oui, du jazz. On dit que les musiciens eux-mêmes peinent parfois à définir le jazz et le genre auquel ils rattachent. On vient d'avoir une illustration. Duke Ellington, lui, il prenait une précaution, il disait « Le jazz, c'est toute la musique. »
Oui, mais ça me parle plus. Ça me parle plus, oui. Oui, mais en fait, c'est marrant, parce que c'est une discussion qu'on a eue aux Allumés du jazz, d'ailleurs. C'est parce que finalement, comme on vend des disques aussi en tant que fédération de labels,
ouais,
et on est dans la problématique de la catégorisation, en disant ben, les gens sont perdus puisqu'il y a 3000 disques, il faudrait faire des catégories. Et moi, j'étais de ceux qui disaient, mais non, je lutte depuis toujours contre la catégorisation. Et en même temps, ça pose un problème parce que c'est tellement large qu'on ne sait plus exactement de quoi on parle.
Jusqu'où on peut ne pas aller ?
Oui, jusqu'où on peut ne pas aller. Et puis c'est un vrai problème parce que souvent les gens, le public par exemple, posent des questions, disant mais ce que vous avez fait c'est du jazz. Oui, mais voilà, mais c'est pas du tout ce qu'on croyait. Mais non, c'est pas ce que vous croyez. Il y a un problème de fantasme autour du jazz, de définition, enfin c'est compliqué.
Le mot jazz lui-même, d'où vient-il ? Vous avez des...
Oh, mais je crois que c'est d'étymologie, c'était un gros mot là. Je sais plus ce qu'il voulait dire. Jazz avec deux S, c'était une... vous allez me le rappeler, je ne m'en rappelle plus.
Il y a plusieurs explications, je crois, enfin en tout cas dans ce que j'ai trouvé, hein, du terme français jaser,
ah oui,
discuter, palabrer, mm-hmm. en référence au rythme et au mot phrasé, ou en référence à la réflexion, ça va jaser, mm-hmm. qui pouvait inspirer la crainte des conséquences des concerts de jazz sur le voisinage. Ça fait beaucoup oui. de bruit, vous savez. on peut penser aussi que ça vient du nom de musicien, comme Chas Washington, oui. mm-hmm. de Chas à jazz, de l'argot.
Oui, moi disiez, c'était la version que j'avais.
Avec
oui.
des connotations sexuelles oui. autour de Jis, qui indique l'énergie ou la force. Mmh. Je n'irai pas plus loin dans l'explication. D'accord. Du jasmin que l'industrie cosmétique française avait utilisé dans des parfums vendus à la Nouvelle-Orléans. C'est une théorie développée par Garvin Bechel, d'une déformation du chassé ou chasse-beau. C'est une figure du cakewalk, alors en France on dit le cakewalk, en tout cas c'est comme ça que disaient mes grands-parents. C'est la danse du gâteau, à la mode au 19e siècle. Des racines africaines, comme le mot bantou, jaja, qui veut dire danser ou jouer de la musique, et puis le terme africain jazzy, être excité, vivre à un rythme rapide, etc. etc. La diffusion du mot jazz, bien que sous la forme jazz, est largement associée à son apparition sur le premier enregistrement de style, en mars 1917, et c'était l'original Dixieland Jazz Band. Bruno, on parle de jazz, c'est bien, on parle oui. de vous, c'est bien, mais on écoute du jazz quand même alors.
Oui, oui.
Si vous nous présentiez les trois premiers extraits que vous avez choisi de nous faire entendre.
Oui, alors ils sont pas forcément chronologiques, mais...
Le choix, c'est un voyage dans votre
jazz. C'est trois fois le même morceau, parce que c'est un morceau que j'ai co-écrit avec Sophia de Mansich. Je pense que c'est le seul que j'ai écrit, je ne suis pas du tout quelqu'un d'écriture. Et j'adore ce qu'on... Enfin voilà, c'est un morceau que j'adore, et que j'ai enregistré plusieurs fois sur plusieurs disques. Mmh. Et là, en plus, vous aurez une version... live, qui était un concert de Radio France à Montpellier, qui n'a jamais été diffusé.
Et donc c'est une exclusivité pour RDC, je tiens à le dire et oui, à le souligner, merci beaucoup. Voilà. Donc c'est trois enregistrements du même thème, c'est ça ?
Du même thème, qui s'appelle Bruno Roubateau.
Ah ah, voilà. Le Bruno Roubateau, voilà. Ça dit déjà beaucoup de celui qui l'a envisagé, écrit, et même peut-être qui le joue. Roubateau, ça veut dire librement, pratiquement.
Librement et sans tempo. C'est, en fait, c'est ça que ça veut dire, Roubateau. Ouais. Donc je reviens à mon histoire de temps.
Aller au-delà du temps.
Exactement.
Oui, temps X. Oui, oui. Un thème, qu'est-ce que c'est ?
Un thème, qu'est-ce que c'est ? C'est un prétexte, en fait, un thème. Hein. Surtout dans le jazz, justement, en fait. Moi, ça pourrait être une des définitions. Une des seules... Ouais, c'est une musique qui est toujours partie de chansons, en fait, de chansons populaires, d'ailleurs.
Des chansons que vous connaissez.
Ouais. Oui, des chansons que tout le monde peut chanter. Et une espèce de digression, d'improvisation autour de cette chanson, en fait.
Et puis vous parlez de tempo suggéré, oui. Je reprends vos termes, plutôt que tempo affirmé. Oui, oui. C'est un chemin vers une improvisation, vers l'écoute de l'autre, des autres, interprétation commune qui vise à rassembler des productions individuelles, c'est ça ?
Absolument. Conjuguer le singulier au pluriel. Ah. En fait, ça, c'est ma grande phrase. En fait, c'est un bon résumé de ce que je pense de la musique, en fait, de faire de la musique ensemble.
Alors voici le premier temps de la conjugaison. C'est Bruno Roubateau et c'est avec Sophia de Mansich, c'est
oui,
ça ?
C'est le trio de Sophia
et
de
c'est
Mansich.
Le trio dont on parlera juste après. Alors vous parlez d'un trio, qui sont les membres de ce trio ?
C'est John... n'importe quoi, comment il s'appelle ?
Paul.
Paul Rodgers, oui. Ah, bah, oui, comment je peux oublier Paul Rodgers. En fait, c'est le premier trio de Sophia Domancy. Juste avant, on avait enregistré en quartet, mais là, je ne l'ai pas mis. Mmh. Un quartet qui s'appelait Hors Série, mmh. avec Michel Saunier et Philippe Sélam. Et en fait, à un moment donné, elle dit, moi, j'aimerais bien jouer en trio, voilà, tout ça. Donc, on a fait ce premier disque en trio. Malheureusement, je n'ai pas fait les autres, parce qu'elle a préféré changer de... prendre un batteur qui était plus en rapport avec ce qu'elle voulait faire à l'époque. Mm-hmm. Et surtout, c'était un batteur anglais, sachant que Paul Rodgers est anglais aussi, que voilà, c'était plus...
culturel, quelque part, mais hors, oui, oui. hors la musique.
Finalement. Hors la musique, mm-hmm. oui, oui. Ce qui ne m'a pas empêché de garder des rapports, la preuve, j'ai des disques encore récents avec Sophia Domancy, ouais, que j'adore.
Il y a un titre à l'œuvre qu'on vient d'entendre ?
Oui, c'est Funerals.
Pourquoi ça, hein ? Funérailles, alors ?
Oui, Funérailles,
en anglais. C'est la fin de tout, et vous le mettez au début.
C'est elle, je lui en laisse la paternité. Une très belle photo de pochette de Cuba, d'ailleurs. Ouais. C'est un très bel album. Il date quand même de 91, celui-là.
Ah, c'était hier.
C'était hier, oui.
Sophia Domancy, donc c'est une Française, pianiste, compositrice, c'est ça ? Mmh, mmh, elle a étudié au Conservatoire de Paris, conservatoire supérieur. Elle a obtenu un premier prix en piano et en musique de chambre, quand même. Et c'est Steve Lacy, Bernard Luba qui lui ont finalement fait découvrir le jazz et qui lui ont permis une entrée dans cet univers. Et le jazz et l'improvisation, hein, pour moi, c'est indissociable.
J'ai une anecdote, c'est que nous étions ensemble à Château-Vallon en 74, 75, dans le workshop de Steve Lacy.
Voilà.
C'est là qu'on s'est rencontrés, d'ailleurs. Oui.
C'est là que vous avez dit, tiens, on pourrait faire des choses ensemble.
Absolument.
Musical, je veux dire.
On avait 18 ans, hein. Enfin, c'était quand même très jeune. Hein. Ah,
donc, à l'époque, même pas majeur, alors. Oh là là.
Avec peut-être, je sais plus, je dis 18, mais c'était peut-être 20.
Avec Paul Rodgers et les batteurs Bruno Tocan, tiens, un batteur, et puis Tony Levin, elle forme le Sophia Domancy Trio. Elle tournera 8 ans avec cet ensemble-là, notamment dans un club londonien, c'est ça ?
Le Ronnie Scott.
Ronnie Scott, oui. C'est ça. Mm-hmm. Et puis 5 albums en studio ont été enregistrés, quand même.
Oui, ils sont beaux, en plus. Oui, très, très beaux albums, oui, oui.
Saviez-vous, Bruno, qu'elle a déclaré, Sophia, je cite, « J'ai toujours été fasciné par la batterie ». Elle vous l'a dit ?
Oui, bien sûr.
Elle vous a expliqué pourquoi ou pas ?
Non. Pas vraiment, mais moi ça me suffit comme déclaration. Ça m'a toujours suffi comme déclaration. Mm-hmm. Je vois, elle aime bien aussi les batteurs qui. C'est pour ça aussi qu'on sait un peu, c'est pas les batteurs qui cognent un peu fort, qui sont un peu.
Les frappeurs.
J'allais dire viril, un peu plus viril que moi. Voilà, c'est ça. Ah. Mais moi ça me dérange pas, j'assume totalement. Alors c'est moi effectivement, c'est ce que je dis, j'ai choisi une voix beaucoup plus. Pour les gens qui connaissent, c'est-à-dire beaucoup plus suggestive, moins... Et même quand je rejouais avec elle il n'y a pas très longtemps, elle continue toujours à me dire oh « Ouais, mais vas-y, hein, tu peux
donne,
y aller, tu
donne
peux...
plus que ça.
Arrête les balais, j'aime pas ça. » Et à chaque fois, je lui dis « Mais écoute, tu m'embêtes. » On se connaît tellement.
Allez, du balai.
Voilà, voilà, elle aime bien les... elle adore Simon Goubert. Par exemple, c'est quelqu'un que je trouve absolument génial, mais qui a une certaine force de frappe, en fait. Et très précise. Moi, j'ai tout le contraire.
Oh, pas précis, non, non.
Non, moi, j'aime bien le flou, moi, en musique. Hein.
Elle a aussi dit, Sophia, je travaille moins mon piano qu'avant, c'est une victoire.
Oui.
À une époque, sans mes 6 heures quotidiennes, j'avais l'impression de n'avoir rien fait de la journée. Travailler son piano, son instrument, plus largement, Bruno, quelle est votre explication de cette formule ? Qu'est-ce que ça veut dire, travailler sa batterie, par exemple ?
Ah bah, ça veut dire en baver, non ? Il faut être clair. Moi, je dis ça à mes jeunes élèves à l'époque. Je dis, posez-vous la question de savoir pourquoi vous voulez jouer, parce que c'est une servitude, hein, effectivement, pendant des années. Moi, je suis comme elle, arrivé à un certain âge, je dis, oh là, on va peut-être commencer à désapprendre,
on va se calmer un peu.
On va se calmer déjà, se sentir moins coupable quand on ne travaille pas son instrument, et trouver d'autres voies que le seul bagage technique. Quoi.
Bruno, on écoute le second enregistrement du même
alors,
thème.
C'est celui-là qui est en...
C'est l'exclusivité.
Voilà.
Exactement. Alors grâce à Bruno, vous pouvez nous le présenter peut-être. Qui joue ?
Oui, alors deux personnages que j'adore, c'est Malo Valois à la guitare et Laurent Dehors au saxophone ténor. Et vous allez voir que dans les trois versions, c'est tout le jazz. En fait, c'est très différent à chaque fois, alors que c'est le même morceau.
Alors voici le même morceau, tout en n'étant pas le même morceau.
Voilà. Thank you.
Alors, c'est le même morceau, sans être le même morceau.
Je vous explique.
Pas forcément les mêmes instruments, c'est ça ?
Déjà, c'est pas les mêmes instruments. Mmh. Et vous remarquez, ah oui, cette fois, il n'y a pas de basse, mmh. ce qui est aussi une des caractéristiques de beaucoup des disques que j'ai fait.
Ouais.
Parce que la basse, finalement, je me suis rendu compte que souvent, les contrebassistes ont des réflexes basse-batterie, enfin, une espèce de machine qu'il faut. Et moi qui leur dis, mais non, mais t'es totalement autonome, moi tu joues de la contrebasse, tu fais ce que tu veux, je veux dire, c'est ton univers, moi je suis pas là pour faire un soutien.
Le mot ou la formule que vous venez d'employer, ce que tu veux, c'est vraiment ce qu'il veut, ou alors il y a quand même, comment dire, une idée générale?
Oui, oui, non, on a une idée générale, mais je voulais dire, c'est une question d'autonomie, c'est-à-dire d'accord. Moi je considère chaque musicien, s'il est avec moi, si on s'est réunis, c'est que je leur fais 3000% confiant, donc je n'ai pas à douter une seconde du discours qu'ils vont amener, sachant que, juste un aparté, mais en musique, quand on improvise, c'est ça en fait la difficulté, c'est que chacun doit avoir son discours et être capable d'écouter le discours de l'autre et être capable aussi d'amender son propre discours en fonction de l'autre.
On parle bien d'un ensemble de jazz. Hein,
oui, d'un ensemble, oui, oui, bien sûr. Et là, je voulais juste dire, c'est ce qui est différent par rapport à la première version. C'est bon, on l'a pas en entier, mais sinon on se rendrait compte. Là, on a commencé par l'improvisation avant de faire le thème, alors que le morceau d'avant, on était sur le thème, l'improvisation venant après.
Mais c'est aussi une relecture, une réécriture,
absolument,
donc une
réécoute,
forcément. Quelques mots sur un des musiciens auxquels vous faites confiance, donc Laurent Dehors. Hein.
Oui.
Il a étudié au conservatoire de Rouen, il a eu un premier prix en clarinette et en solfège, une licence de musicologie ensuite, et puis il a renoncé à continuer, il a renoncé à la maîtrise sur le sujet, je le cite, de l'emploi des gammes pentatoniques dans la musique de jazz, il a renoncé pour se consacrer au travail du saxophone, les gammes pentatoniques. Qu'est-ce que c'est ça ?
Alors
ça,
je ne pourrais pas vous répondre. C'est beaucoup trop. Moi, je suis batteur. Donc,
et le batteur n'a pas de notes ?
C'est compliqué. Non, c'est pas. C'est-à-dire, moi, j'ai une connaissance globale de tout ça, mais pas analytique. Quoi.
Gamme pentatonique, donc pinta à 5 tons. La gamme à 5 tons.
Bah oui,
hein,
c'est ça.
Donc, c'est l'histoire
de gamme.
Dans les musiques asiatiques, par exemple, qui sont. Allez, si je fais un raccourci, si on utilisait que les touches noires du piano.
C'est ça.
On aurait une gamme pentatonique ou des gammes pentatoniques.
Merci de me sauver sur ce.
Je suis là pour ça, vous le savez bien. Mais c'est vous officiellement qui avez répondu. Donc Laurent Dehors, c'est un musicien prolifique, tant au niveau de la discographie.
C'est le bon terme.
Oui. Que de par ses apparitions cyniques, il est polyinstrumentiste. C'est comme ça qu'il se définit. Il est clarinettiste, c'est ça ?
Oui.
Mais il utilise aussi la clarinette basse, la cousine ou la grande sœur de la clarinette, et la clarinette contrebasse. C'est encore rare, ça.
Ce qui est beaucoup plus rare, oui.
Il maîtrise aussi le saxophone, il privilégie le saxo ténor et le saxo soprano. Et puis, il est le leader d'un big band, Tous Dehors.
Tous Dehors.
Quel beau jeu de mots. Mmh. On sait aussi, peut-être moins, qu'il utilise la cornemuse.
Ah si, oui. Mais je l'ai fait venir à Trois Palis. Là en 2023, il est venu en duo avec une saxophoniste qui s'appelle Céline Bonassina, et c'était quand même aussi un sacré.
À Trois Palis, c'est là où vous résidez, puis c'est là où vous organisez un festival.
Voilà.
Et alors, si on écoutait, Bruno, s'il vous plaît, quelques
troisième version.
La troisième version, là, vous nous la présentez, vous nous dites qui.
Alors, oui, parce que alors, c'est le disque que je me suis enregistré à New York. Comme tout musicien, il y a un moment donné, on se dit, ah, bah, ça serait quand même grand d'aller enregistrer à New York avec un pianiste new-yorkais. D'autant que ce pianiste avait joué avec Paul Motion, et enregistré avec Paul Motion, dont je suis un fan, et je voulais faire un disque, non pas hommage, mais dédicacé à Paul Motion. Voilà. Donc, sur ce disque, il y a encore une version de ce Bruno Rubato.
Alors, voici. Je crois qu'il y a In a Suggestive Way, qu'est-ce que ça veut dire ça ?
Alors, In a Suggestive Way, c'est le disque que j'ai fait à New York. Et ceux qui connaissent comprendront l'allusion à une Silent Way de Miles Davis, qui paraît prétentieux, mais c'était pas du tout le cas. C'était c'est ma façon, de manière suggestive, d'affirmer mon envie de jouer de cette façon-là.
Alors on aura donc un piano.
Donc c'est Russ Lessing, un pianiste new-yorkais, Quincy Natchoff, qui est un saxophoniste avec qui j'ai beaucoup enregistré, qui est
Canadien, c'est ça ?
Ouais, mais qui habite à New York maintenant. Rémi Godilla, qui a été mon compagnon sur beaucoup de disques, à la trompette.
Alors voici la troisième version du même thème, ou la troisième non-version, tiens, oui, dire, du thème même qui est différent. C'est parti. Auditrice, auditeur, je vais vous faire une confidence. Vous ne pouvez pas le voir, mais en face de moi, j'ai un batteur qui revit complètement le morceau qu'il entend. Si, si, si.
Oui, oui, c'est vrai. Là, j'étais dans le studio. Là,
ouais, absolument. Oui, oui. Et puis dans la musique aussi.
Dans la musique aussi.
Oui. Et là, on a entendu un trompettiste, Rémi Godilla, c'est ça ? Et puis, il a fondé plusieurs ensembles, certainement, mais sur les ondes de France Inter, on entend parler de l'envol majestueux du Rémi Godilla Sextet. C'est beau comme définition,
beau,
comme titre.
Ça va être...
Alors ce morceau, vous le disiez, est dédicacé ou dédié à Paul Mossian, c'est ça ?
Oui.
Stephen Paul Mossian, je crois, son nom complet, c'était un batteur ?
Oui.
Un percussionniste et batteur, ou batteur,
oui,
et percussionniste ?
Qui a écrit beaucoup de thèmes aussi. Oui.
C'est un confrère, non ?
Ah, c'est un confrère.
C'est un modèle ?
Oui, oui. Ben, comme je l'ai dit à l'époque, moi qui pensais n'avoir aucun maître, c'était un peu... voilà. Et le jour où il a disparu, je me suis dit, ah bah si, j'en avais un, s'il y en a un, c'est lui. Quoi.
Ouais, c'est quand les gens ou les choses ne sont plus là.
Oui, quand ils disparaissent.
Ouais, ouais. Ouais. Et puis Russ Lessing, que nous avons entendu, fut son pianiste, oui, à ce Mossian, c'est ça ?
C'est ça.
Et on a déjà parlé de Quincin, on dit, ou Quincin ?
Quincin.
Parce que si les Canadiens, ça dépend...
Oui, ah, non, mais les Canadiens anglophones. Non.
Ah d'accord, ouais. C'est un saxophoniste et clarinettiste canadien, donc qui vit aux États-Unis.
Oui.
Bruno, donc, votre instrument, votre premier instrument, en tout cas, c'est la batterie.
Oui.
Comment vous pourriez présenter la batterie ? Qu'est-ce que c'est, la batterie, à quelqu'un qui n'y connaît rien, comme moi ?
La batterie, c'est la batterie. Comment définir la batterie ? Ça dépend si on parle de l'origine. L'origine, c'est la réunion de plusieurs instruments de percussion qui étaient joués séparément, hein, dans un seul instrument qui utilise les quatre membres. Hein. C'est toute la difficulté.
Et sinon, d'où la chorégraphie dont on parlait tout à l'heure.
Oui, d'où la chorégraphie, oui, effectivement.
Et donc la dissociation.
Bah oui, main droite, main gauche, enfin les pieds, les mains, voilà.
Tout ça ne doit pas fonctionner forcément toujours ensemble. Et même,
non,
d'après ce que vous disiez, rarement ensemble.
Ça fonctionne rarement ensemble, donc faut beaucoup travailler. Mais finalement, sur cet instrument, c'est pas le plus difficile, parce que ça c'est mécanique en fait de séparer les...
En fait, comme ça le devient.
Oui.
Au départ,
oui. Ah, au départ, oui. Au départ, c'est ce qu'il y a de pire. Hein. Oui, effectivement. Mais après, c'est comme tout instrument et ça demande beaucoup, beaucoup de travail, si on veut. Enfin, comme disait Feu Denis Badeau, parce qu'on l'a perdu il n'y a pas longtemps.
Ouais.
Et en fait, c'est l'histoire de la boîte à outils. C'est-à-dire, en fait, on peut effectivement accumuler des outils dans sa boîte. Après, faut-il savoir à quoi ils servent, en fait. C'est là ce qu'on appellerait la technique. Et on oublie, certains oublient de savoir à quoi bon, enfin quel est le but de tout ça.
En tout cas, l'origine de la batterie, ou une origine, hein, c'est, vous le disiez, le regroupement de plusieurs instruments,
oui,
qui existaient dans plusieurs endroits du monde. Par exemple, la caisse claire et la grosse caisse sont d'origine européenne.
Oui.
Les cymbales viennent de l'Orient.
Mmh.
Elles sont probablement un des instruments les plus anciens au monde. Les premières traces remonteraient au 3e millénaire avant Jésus-Christ en Inde. Les tomes trouvent leurs racines dans les percussions amérindiennes, et puis africaines, bien sûr, et parce que les Africains ont été priés, on va dire, de changer de continent.
C'est ça.
Ouais. Et ils furent probablement inventés à la même période que les vases en terre cuite, les tomes, on le pense en tout cas. Et puis, charlet, ça vous parle, hein, vous, batteur? Charlet,
oui,
qu'est-ce que c'est?
Bah, en fait, c'est deux cymbales frappées. Au départ, c'était des cymbales frappées. Il y a toujours dans les orchestres classiques, hein, oui. Sauf qu'on les a mis sur une pédale, ce qui fait qu'on peut s'en servir avec le pied.
De manière différente, voilà, et peut-être exactement plus facilement quand on a les autres instruments aussi à côté. Et puis, on pense que ça provient d'un instrument de la période romaine dans l'Antiquité, ah, oui, le scabellum. La batterie, finalement, c'est le croisement des continents.
Oui.
La batterie, c'est le centre du monde, en quelque sorte. Un carrefour entre les parties du monde.
Oui, oui, c'est bien vu. Oui, oui.
Bruno, est-ce que vous pratiquez un autre instrument que la batterie, voire d'autres instruments?
Et non.
Ah. Et c'est pas grave, je veux dire.
Non.
Et dans votre famille, on est musicien? Et dans vos proches, parmi vos proches?
Mon père était trompettiste, mais je l'ai appris très très tard, en fait. Mm-hmm. Mes enfants sont en rapport avec la musique, mais ils ne sont pas musiciens. En fait. Il y en a un qui travaille dans le son, il est ingé son, l'autre il est web designer, mais toujours les deux sont passionnés par la musique. Ils font de la musique pour eux, quoi.
Voilà. Oui, mais ils sont amateurs, on va dire. Mais c'est dans amateur, il y a aimé, comme
oui,
vous dites
aimé
souvent.
Hein, c'est non, puis ils travaillent dans des métiers où la musique est importante. En fait, ouais.
Donnez-nous vos notes, c'est sur RDC. RDC 93.4, 92.5 pour la région de Sainte. Donnez-nous vos notes. Aujourd'hui, c'est avec Bruno Tocane. Tout va bien, Bruno?
Tout va bien.
Après ce bref exposé sur l'histoire de la batterie et auparavant sur celle du jazz, avec l'extrait suivant, Bruno souhaite faire un clin d'œil à une partie de l'histoire du jazz. Vous avez dit que vous avez été prof d'histoire du jazz, c'est
oui,
ça?
Entre autres, oui.
Vous
oui
dites que cette partie de l'histoire du jazz vous a tant séduite avec, par exemple, les quintettes de Miles Davis.
Oui,
avec Tony Williams. Et pourquoi ça vous a séduit cette partie?
Ça m'a séduit sur le tard, c'est ce que j'ai expliqué en fait, venant de la pop et ouais, du free jazz, j'ai découvert toute l'histoire du jazz à l'envers en fait.
Mais c'est un monde qui s'ouvre, qui s'est ouvert.
Oui, ah bah, complètement, surtout pour un batteur, hein, enfin, où le rôle de la batterie est effectivement beaucoup plus séduisant pour un batteur que le simple fait d'avoir un groupe pop, en fait, hein, enfin, pour être clair. Hein. Je trouvais ça limité, en fait, hein, quand j'ai...
Ouais, d'accord, vous considérez que l'univers est plus large?
Ah bah oui, bien. Puis il permet beaucoup plus de liberté sur l'instrument, permet justement de développer un discours qui ne soit pas qui soit pas attendu, quoi, qui soit un peu inattendu.
La surprise.
Oui, la surprise.
L'étonnement.
L'étonnement, oui. Et alors, ce qui peut être marrant, vous allez voir en écoutant celui-là, c'est que là, les trois premiers sont rubato, justement, donc sans tempo, voilà. Et celui-là est sur un tempo très formel, très jazz. En fait.
Et alors celui-là, comme vous dites, c'est lequel?
Alors, il s'appelle Interlude, c'est un quartet que j'ai appelé For New Dreams. En fait, ça voulait dire... inventons de nouvelles utopies. Quoi. Enfin, c'était un espèce de cri du cœur. Voilà.
Des
nouveaux rêves. Oui.
Puisque vous étiez quatre.
On a besoin de nouveaux rêves. Quoi. Ouais. Et donc j'en ai fait plusieurs. Il y a eu un Five New Dreams, New Dreams, voilà, etc.
C'est le rêve de quatre instrumentistes, c'est ça?
Absolument.
Alors rêvons ensemble. Alors on entend plusieurs instrumentistes, Michael Bates, c'est ça?
Ouais.
Samuel Blazer, Bruno Tocane. Michael Bates, il a grandi au Canada,
oui,
il a fréquemment Vancouver travaillé pour le Festival International de Jazz de Vancouver,
oui,
quand même, ce qui lui a permis de croiser nombre de musiciens de renom, du moins on s'en doute. Il a commencé la musique en jouant dans des groupes de hardcore et de punk rock.
Absolument.
Tiens, il y a encore un qui n'a pas commencé par le jazz.
Ouais, absolument.
Et il estime qu'être un musicien de jazz n'est pas différent, lui. Mm-hmm. Ah, donc deux lectures finalement.
Oui et non, parce qu'en fait, je pourrais prendre ça à mon compte, en fait. Ah. Non, mais je suis pas une personne différente en ayant joué effectivement de la pop musique ou du free jazz ou du jazz, en fait. Donc
mais on s'adapte à l'environnement musical, on s'adapte aux autres, à l'autre. Et en tout cas, l'idée,
donc,
c'est de faire tomber.
Je pense pas qu'il y ait une frontière.
Faire tomber les frontières.
Oui.
Faire tomber les frontières entre les gens et les styles de
au
musique
contraire,
à l'intérieur du jazz et au-delà, j'allais dire. Hein. Et je sais que le Parisien de naissance que vous êtes les a abolis depuis longtemps, géographiquement, en passant par le Beaujolais, pour aller au pays du cognac, géographiquement bien sûr, mais musicalement, artistiquement et sans doute culturellement. L'extrait suivant, c'est un chant chilien, c'est ça ?
Alors c'est un chant chilien, effectivement, et c'est un disque qui est en hommage à Pablo Neruda, et ce Patria des multitudes, qui était un morceau des Quilapayún, en fait. C'est un morceau sur le Chili. Hein. Moi, c'est ma génération. Hein. J'étais très engagé, très choqué par ce qui se passait au Chili, etc. Avec Pinochet.
L'époque de la dictature.
Oui, l'époque de la dictature. Et en plus, c'est une période où j'ai fait plusieurs disques. Je crois que je les ai pas mis là. Il y a un trio Résistance, que j'ai appelé Résistance, et qui ne jouait que des chants de lutte et d'espoir. On avait appelé ça. Dont d'ailleurs le chant des partisans, qu'on a enregistré aussi, mais des tas de chansons, un peu à l'image d'un Charlie Haden qui a fait beaucoup ça avec Carla Bley, justement.
Donc la musique, ça peut être aussi le moyen d'un engagement ?
Oui, parce qu'à l'époque, il y avait, comment il s'appelait, ces Toulousains, Zebda, je crois.
Oui.
Et ça me séduisait beaucoup, je me disais, c'est bien que des artistes prennent la parole, se mobilisent et tout. J'ai dit, nous, musiciens de jazz, on n'a pas le texte. Donc comment on pourrait se positionner sans le texte ? Bah, effectivement, avec des chansons, d'abord des chansons de lutte et soir, il y en a des très très belles. Quoi. Et donc ça faisait un répertoire, moi qui n'écris pas en plus, je me dis c'est un répertoire, c'est presque des standards, mais des standards engagés. Quoi,
et en plus avec un sens particulier donné aux paroles en fonction de, d'une action ou d'une réaction, si
bien
je prends
sûr,
le nom,
oui.
Résistance. Canto de multitudes. Patria des multitudes, en référence à Quilapayún. Alors, Quilapayún, c'est au départ un groupe de musiciens chiliens qui a été créé à Santiago, une autre capitale, en 1965. C'est trois barbus.
Oui.
Parce que Mapuche, c'est Quila, n'est-ce pas ? Et puis Payún, ça veut dire barbe. Donc c'est les trois barbus. En France, on a eu les quatre barbus, mais bon. dans ces chansons, ce groupe associe des instruments traditionnels andins et des paroles poétiques ou politiquement engagées. On vient de faire référence à l'engagement musical et on parlait de la poésie bien avant. Lors de la période dictatoriale du Chili, ses membres se sont exilés en France. Et puis ils sont notamment célèbres pour la composition El Pueblo Unido.
Absolument.
Jamás será vencido. Et voici Patria de Multitudes. Alors on entend donc une longue introduction instrumentale, oui. On se dit, tiens, qu'est-ce que ça d'engager de résistant, puisque c'est calme, c'est doux, c'est...
C'est parce que ce fait, c'est souvent ça dans le jazz d'ailleurs. En fait, il arrive, là encore une fois, qu'on commence par l'improvisation avant de jouer le thème. En fait.
D'accord. Et le thème
ça prend l'improvise avant. Ben là, juste, elle était en train d'arriver, de chanter le.
C'est Élodie Pasquier, hein, je crois.
Non, là, c'est Lucia Recchio.
Excusez-moi.
Oui, Élodie, elle est là, mais elle joue la clarinette.
Elle est plus tard, pardon. J'ai interverti les deux noms. Et donc, on entend à nouveau Rémi Godilla, c'est ça?
Oui.
Et puis Bruno Tocan, bien sûr.
Bernard Santacruz,
la contrebasse.
Ouais, la contrebasse. Oui.
Il y a souvent une contrebasse quand même, mais pas toujours, vous dites.
Il y en a pas.
Ah.
Bon, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais là, le projet était. C'est un projet commun entre Rémi Godilla et moi-même. Le reste, ce sont des hommages à Pablo Neruda écrits par Rémi Godilla. C'est le seul morceau, en fait, qui n'est pas original. Mais c'est un morceau que j'aime, qui me touche. Je fais même. Il y a pas grand. Je le dis toujours, je réécoute jamais mes disques, mais il y a un ou deux morceaux, dont je vous fais part, Bruno Roubateau et Patrick. C'est des morceaux, que j'adore.
Les oreilles n'écoutent jamais, ou les oreilles écoutent, mais pas seulement, je crois, pour la musique, le cerveau, bien sûr, et
bien
le cœur, surtout.
Oui, c'est une ambiance, c'est des tas de choses.
Vous êtes bien sûr RDC pour Donnez-nous vos notes. Sur RDC 93.4 et 92.5 pour la région de Sainte, c'est le moment du jeu du jour dans l'émission Donnez-nous vos notes, consacrée aujourd'hui à Bruno Tocan, batteur et percussionniste, ou batteur ou percussionniste, ou
les deux, c'est bien.
On peut dire les deux.
Soyons fous.
Osons. Auditrice, auditeur, pour gagner, c'est simple. Juste après la question que je pose, vous vous précipitez sur vos téléphones, vous composez le 05 45 95 09 87, je répète, 05 45 95 09 87, vous donnez la réponse, et si vous êtes la première ou le premier, vous gagnez quoi? Un CD ou un DVD, et puis une invitation à assister à une prochaine émission de la série Donnez-nous vos notes pour savoir comment ça se passe de l'intérieur. Je répète le numéro, c'est le 05 45 95 09 87, le standard de RDC. Et voici la question. Dans quelle ville Bruno Tocan est-il né? Dans quelle ville Bruno Tocan est-il né? La réponse dans quelques minutes, évidemment. Pour l'instant, Bruno, revenons à la musique, aux notes que vous nous donnez, que vous nous offrez. Où en sommes-nous? Que nous proposez-vous maintenant?
Alors là, je me suis lancé un jour, je me suis dit, parce qu'en fait, j'ai dirigé un collectif de musiciens pendant deux décennies au moins. Et en fait, un jour, je leur ai dit, mais pourquoi est-ce que, comme tous les collectifs, on n'a pas un grand ensemble, quoi. Alors, c'est pas du tout ma tradition, les grands ensembles. Moi, je suis plutôt dans les petites formations. Et donc, j'ai dit, on va faire ça, mais collectivement. Parce que moi, d'abord, je n'écris pas. Ensuite, je ne suis pas un directeur. Je suis incapable de diriger un orchestre, etc. Donc, on a un orchestre collectif qu'on a appelé le Libre Ensemble, le bien nommé Libre Ensemble. Et là, j'ai choisi un morceau d'un des guitaristes, qui s'appelle Philippe Gordiani, et qui est un morceau assez rock'n'roll, en fait. Assez bon. Donc, c'était une façon aussi de... Moi, j'ai toujours un peu noyé les pistes, en fait, d'un disque à l'autre.
C'est surprenant ce que j'entends, pour moi, en tout cas, peut-être pour les auditrices et les auditeurs aussi, parce que vous parlez d'un grand ensemble, donc vous voulez dire un collectif.
Oui,
8
musiciens,
c'est ça, une petite dizaine, peut-être,
c'est ça,
8, vous avez dit. Et puis, vous dites que c'est un ensemble sans être un ensemble, alors j'exagère peut-être un peu, mais...
C'est un ensemble collectif. Je ne peux pas dire mieux, autogéré, quoi. Moi, je crois à la transcendance des projets, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, je fais des castings, en fait, je connais beaucoup de musiciens, je me dis, tiens, ça serait génial de mettre machin avec machine, etc. Des gens qui ne s'entendent pas forcément, qui n'ont pas forcément les mêmes mots. Et moi, j'ai toujours pensé que si le projet était viable...
Le projet ou la musique les réunit, ou les deux?
Les deux, le projet musical, on va dire. Mais je pense aussi la même chose en règle générale, j'allais dire en politique, mais de manière générale. Si le projet transcende toujours les différences, en fait, c'est l'intérêt du projet. Et la musique en rajoute une couche, puisqu'effectivement, il y a une obligation de s'égoutter, une obligation
et puis
de partager, etc.
La musique aide aussi les mœurs.
Ah, aussi. Il y a une troisième chose aussi importante. J'ai beaucoup joué à l'étranger. c'est que la musique, c'est un vrai langage universel, puisque justement, il n'y a pas la barrière de la langue, en fait.
Ouais, langage,
on est vraiment des vecteurs d'émotion. Donc ouais. L'émotion, elle peut se ressentir. Moi, j'étais joué au fin fond de la Sibérie, ça fonctionne presque mieux qu'en banlieue parisienne.
Parfois, enfin, langage ou pré-langage, hein, parce que là, on ne va pas entrer dans le détail, mais
oui.
Il n'y a pas de signifiant, musique vraiment au sens du, au sens du langage.
Alors, disons la communication. Voilà. Disons qu'il y a on a un mode de communication universel, quoi.
Oui,
ce que je trouve quand même génial. Moi, d'avoir vécu ça et de continuer à lui, je trouve que c'est une chance extraordinaire.
Quand on joue dans quelqu'un, on lui donne quelque chose, mais je crois aussi qu'on reçoit.
On reçoit beaucoup.
Évidemment.
Ah oui.
C'est
un échange.
C'est un aller-retour entre celui qui joue, l'émetteur, et celui qui reçoit.
Et c'est aussi pour ça qu'on est un certain nombre, dont moi, à avoir du mal en studio. Par exemple, enregistrer un disque, ça veut dire ne pas avoir de public, c'est-à-dire avoir l'impression de parler tout seul, ou de se regarder dans la glace.
Et faire comme si, peut-être, c'est difficile, c'est ça?
Mais on ne peut pas. Il n'y a pas de retour immédiat. Sauf notre retour, on est obligé de se concentrer sur nous-mêmes, enfin, d'être beaucoup plus égocentré que sur une scène.
On retrouve ça dans un studio de radio?
Non, parce que on n'est pas. Oui, si, un peu quand même. Mais non, parce que là, la parole, pour moi, c'est très différent. Le fait de parler. Par exemple, sur scène, j'arrive pas à parler. Je suis très émotif. Donc, je suis capable de bégayer, d'oublier totalement ce que je voulais dire, de me tromper dans le nom des musiciens. Enfin, c'est une autre forme de concentration qui n'est pas la même.
Et pourtant, là, on ne voit pas notre public non plus, puisqu'il y a les auditeurs qui peuvent parfois plus de 100 000 pour les.
Je ne suis pas en situation de jouer. Je serais en situation de jouer, j'aurais le même problème qu'en studio, je ne serais pas à l'aise. Quoi.
Alors on revient à votre choix de ce grand ensemble, c'est ça?
Oui.
C'est une œuvre de Philippe Gordiani.
Oui, absolument.
Allez, vous en parler.
La Folée. Ce libre ensemble, là, il y a eu des choses complètement différentes, dont ce morceau que. Moi, en fait, j'ai cherché les morceaux qui me sont restés, et celui-là me reste. Je ne sais pas
pourquoi. La Folée.
Il a quelque chose de
le titre, La Folée.
La Folée. Je ne sais plus. Il nous l'a expliqué, mais je ne m'en rappelle plus.
J'avoue que.
Je ne sais plus.
Je me pose la question. Si quelqu'un
que
la réponse, appelez le 05 45 95 97 et donnez-nous la réponse. Qu'est-ce que c'est que cette Folée de Philippe Gordiani? Est-ce que c'est un lien avec la folie mentalement, ou la folie au milieu des feuilles? J'en sais rien. En tout cas, la voici, cette Folée. Dans quelques instants. Entend. Expliquez-nous.
Moi, je trouve ce morceau incroyable. Je trouve ce morceau qui nous a amené totalement incroyable. Je ne sais même pas quoi en dire. Enfin, c'est un côté répétitif.
J'entends, dis-moi, les battements d'un cœur.
Oui,
avec la guitare.
Oui, absolument. Oui,
et puis, il y a le autour. Et le autour, c'est par les autres instruments.
Oui.
Que j'ai osé dire à un batteur que pour une fois, c'est pour lui qui a le tempo. Quoi.
Ah non, mais clairement, oui, c'est vrai. Oui. Bah, c'est un morceau de guitariste en même temps. Philippe, c'est quelqu'un de beaucoup plus. Il a un très lointain rapport avec le jazz, en fait. Beaucoup plus loin. Et c'est pour ça, en fait, cet orchestre, il y avait deux guitaristes, un qui s'appelle Fred Meyer. C'est des gens de Lyon, hein, j'étais à Lyon. qui est très jazz, et lui qui est beaucoup plus rock, en fait. Et ce qui m'intéressait, c'était de mélanger tout ça et de voir où on allait, quoi. Et ça, sur scène, c'était quand même monstrueux. C'était quand même un niveau sonore assez fort. Enfin, voilà, moi, je retrouvais des sensations de quand j'étais jeune musicien, quoi. Oui, des groupes rock. Ouais, ça me plaisait énormément de faire ça. Ouais. Moi, mon problème a toujours été que j'aime beaucoup de choses différentes. Et
qu'il faut choisir.
Dans ce métier-là, il faut mieux choisir.
Et choisir, c'est renoncer, forcément.
Voilà, exactement.
Hein, selon l'expression consacrée.
Exactement.
Alors, Philippe Gordiani, qui c'est finalement ? C'est un producteur, c'est un compositeur,
c'est tout ça.
Un musicien protéiforme, tiens, oui, je veux dire.
Oui, hein. Oui.
Et puis, il est également metteur en scène, on m'a dit.
Metteur en son, plutôt.
Ah, oui. Il participe à de nombreux projets musicaux nationaux, internationaux. Il compose de multiples musiques de scène.
Oui.
C'est là où vous dites qu'il est metteur en son, peut-être.
Oui. Hein.
Il collabore à de nombreux projets cinétiques diffusé à l'international, et puis il perçoit, dit-il, le rapport au son comme l'essence de son langage musical, et il envisage la spatialisation des sons comme une écriture.
Oui.
Mettre le son en espace, comment ça peut se traduire pour vous, ça ?
Ben, lui, c'est, en tout cas de son point de vue, c'est des gens qui travaillent beaucoup sur la diffusion, c'est-à-dire en fait, ils sont capables de passer des heures pour savoir où installer un certain nombre de haut-parleurs dans des conditions. Enfin, ils sont assez fascinants. C'est des gens qui sont très pointus sur le son. Enfin, moi, j'ai beaucoup d'admiration. Moi, qui ne suis pas du tout un technicien, je trouve ça me fascine.
C'est fascinant,
oui. Oui, je trouve ça très fascinant. Oui.
Étonnant d'abord, fascinant
oui,
ensuite.
Oui, oui.
Addictif, peut-être.
Oui, addictif, absolument. Mais ce morceau, je le trouve addictif.
Oui,
voilà,
oui,
c'est le terme qui me manquait. Voilà.
Et Philippe Gordiani, il développe des installations sonores, hein,
oui,
vous le disiez, immersives, et puis des dispositifs d'écoute singuliers, certains, inattendus, on le disait. Depuis 2015, il a décidé de monter sa propre compagnie pour développer des projets hybrides où se croisent musique, texte, art numérique, des projets hybrides, des rencontres, des croisements entre différentes formes d'art. Qu'est-ce que vous en pensez, Bruno ?
Que du bien.
Quel est votre avis sur le sujet ? C'est bien, c'est ça ? Parce
bah
que
oui.
Je crois que, si je regarde un petit peu les documents auxquels j'ai pu avoir accès, je vois Bruno Tocan met en musique en direct un film,
oui,
à la caméra de Dziga Vertov. C'est un ciné-concert, c'est ça ?
Oui, oui, oui.
Alors qu'est-ce que c'est que ce film ?
Ah bah, c'est un film de Dziga Vertov, c'est un film de référence pour tous les cinéphiles.
Hmm.
C'est une espèce de clip de plus d'une heure. Hein. C'est un montage d'images, c'est en noir et blanc. Hein.
Mmh.
Et en fait, je voulais un film non narratif, justement, parce qu'en fait, le pari, c'était pas de faire un ciné-concert avec une musique écrite, mais on improvise tout le long sur le film. Ce qui est extrêmement fatigant.
Je crois que le film, c'est des années 30, un petit peu avant,
20,
hein,
même, ouais,
années 29,
20,
je crois,
oui,
précisément.
Oui, oui.
Et votre création avec ces images-là, c'est de l'année 2000-2001.
Oui, je me souviens plus très bien, mais oui, puisqu'on l'a fait longtemps, hein, oui. On l'a créé à Lyon, effectivement, je me souviens, oui. Oui, bah, c'est pareil, c'est un truc qui me traînait dans la tête, le ciné-concert, ça me fascinait. Et j'ai découvert que la difficulté, c'est que les images ne renvoient pas de... Enfin, elles défilent, quoi.
Hein. Mm-hmm.
Pourquoi je dis c'est fatigant ? Parce qu'improviser... On est habitué, c'est ce que je disais tout à l'heure, à avoir un renvoi de quelqu'un d'autre, enfin des autres musiciens, du public, etc. Là, l'image, elle défile, et il faut y aller, quoi. On est à son service.
Il faut suivre.
Il faut suivre, et c'est extrêmement épuisant.
Établir des liens
dans
l'immédiateté,
oui,
c'est ça. Et puis des vidéoconcerts aussi, ça vous parle, ça ? Qu'est-ce
oui,
que c'est qu'un vidéoconcert ? Dites-nous.
Ben, c'est-à-dire qu'en fait, on travaille avec un vidéaste, un VJ, maintenant on dit. On a travaillé, par exemple, sur... c'était l'anniversaire de mai 68, on a travaillé sur la Beat Generation. Et en fait, il diffusait des images, il avait une banque d'images. En fait, c'est pareil, on lui faisait confiance. Hein. Il diffusait ça sur scène avec des tulles. En fait, on était au milieu de l'image, en fait. C'était, j'ai beaucoup aimé faire ce travail-là.
Une mise en son, une mise en espace.
Une mise en espace, oui, oui.
Ouais, c'était, par exemple, Roundabout,
oui.
1968,
voilà.
C'est ça. En 1968, et puis il y a Les Bergers Fous de la Rébellion.
Oui,
de la Rébellion,
c'est sur la Beat Generation.
J'aime bien toujours les références au titre, pas comme les autres, Refus,
ouais.
La Résistance, Les Bergers Fous de la Rébellion.
C'est beau.
C'est beau,
bah,
vraiment.
Oui.
Et puis Panique.
Ah oui, sur Topor, oui, j'avais oublié, qu'on a été joué à Montréal d'ailleurs, oui.
Ah, donc
oui,
c'est...
Panique, parce qu'en fait, Lyon, c'est quand même la région de Topor, en fait, il y avait Pascal Dinca qui est un...
Alors Topor, qui c'est ?
Ah, Topor, qui c'est ? Comment définir Roland Topor ? C'est extrêmement...
Un touche-à-tout.
Oui, c'est un touche-à-tout. Oui, oui.
Dans le domaine de l'art en particulier, oui, oui, mais oui. Pas seulement des lettres aussi. Hein, oui, les arts, oui. Les lettres. Est-ce qu'il est chevalier des arts des lettres? J'en sais rien.
Ben non, je sais
en tout
pas.
Cas, la musique est aussi un moyen de rencontre entre les arts. Et on le retrouve aussi avec des mises en musique lors de concerts dits classiques. On a un festival en Charente, Piano en Valois,
oui,
où
oui.
Il y a régulièrement des projections ou des choses avec la musique. Peut-être qu'à Trois-Pali, c'est le cas aussi, ou ça va l'être.
Ça va l'être. Pour l'instant, on ne l'a pas fait, mais c'est quelque chose qui m'intéresse. Ça demande des moyens techniques. En fait, le Trois-Pali, le pari, ça a été au départ, c'était de faire quelque chose avec le moins de moyens possible. C'est une espèce de retour aux sources. Ce que j'ai connu moi jeune musicien, des jazz actions avec très peu de moyens, mais avec des gens très motivés. Et donc je suis encore resté dans cette logique-là. Très peu de moyens techniques, en tout cas.
On enchaîne avec l'extrait suivant, si vous voulez bien. On parle de Nashoff, ou on reparle de Nashoff, c'est ça, avec
Duality.
Duality,
ouais. Un des nombreux disques que j'ai fait avec Quincy, et qui est enregistré à Rochefort d'ailleurs. Five New Dreams, on était à 4 New Dreams tout à l'heure, maintenant on est 5.
Un de plus.
Oui, un de plus. Ouais. Et Quincy, c'est quelqu'un qui écrit des choses extrêmement complexes. Et que c'était très drôle parce que moi je suis un très mauvais lecteur, je suis plutôt un improvisateur. Hein? Donc la complémentarité m'intéressait. En plus, il a le côté américain très... très pragmatique, très formel, tout est toujours cadré, et moi je suis un bordélique total, enfin voilà. Donc tout ça m'a beaucoup amusé, et comme d'habitude, je me suis dit, qu'est-ce que ça donne si on...
Et donc, si on met tout ça ensemble.
Lui était content que je lui amène ce côté un peu européen, un peu lunaire, quoi.
Ouais.
Et nous, on était contents d'avoir quelqu'un qui nous drive, qui soit aussi... Donc voilà le résultat.
Et le résultat, c'est sans étincelle. Tout va bien, quoi, je veux dire.
Ah, tout va bien.
Ah, toujours, le côté humain.
Ah oui, oui.
Et on retrouve à vos côtés Nashoff, donc, et puis Godilla aussi.
Oui.
Parce que la musique, pour les musiciens, c'est le moyen de départ, de retrouvailles, d'aller, de retour, c'est ça?
Moi, c'est plutôt des rencontres que j'ai faites.
Ouais.
Rémi, je l'ai connu, il avait, je sais pas, 23, 24 ans. J'habitais donc dans le Beaujolais, et un jour, il est venu me voir, il était jeune musicien. Il me dit, j'aimerais bien jouer avec toi, intégrer ton collectif. Et tu dis, allons-y. Quoi. Et ça a duré plus de 10 ans. Quoi. Donc on a fait le tour du monde ensemble. Enfin, donc moi, c'est des rencontres. Quincy, ça a été pareil, ça a été une rencontre. Voilà, moi, je me laisse aller au gré des rencontres. Ici, j'ai rencontré Didier Frébeuf, pareil.
Dont on va parler tout à l'heure.
Oui, oui. J'aime bien ne pas... j'ai jamais eu de plan de carrière, quoi. Donc, voilà.
On prend ce qui vient.
Voilà, ce qui vient. Mais ce qui vient de bien.
Hein. Ah, enfin, évidemment, évidemment.
Il y a de l'échec, hein, forcément, mais oui.
Ce que je voulais dire, c'est que avec des musiciens comme Godilla, par exemple, mais Nashoff aussi, vous faites un projet, puis pendant un certain temps, vous faites des projets avec d'autres, puis vous revenez avec les autres.
Oui.
Il y a une espèce de...
C'est un réseau.
Ouais,
c'est pour ça que mon collectif s'appelait le réseau e-musique, enfin pas en vain, mais le terme de réseau était important pour moi. Et je continue à fonctionner. Mon festival ne fonctionne parce que j'ai un réseau.
Les connaissances et les amis, et les amis des amis, et c'est important aussi, on est
sur le
domaine
beaucoup.
Humain.
Oui.
Le titre, Five New Dreams, il a été enregistré à Rochefort, c'est en route vers l'au-delà, vers l'outre-mer, en route vers le Nouveau Monde, parce que la côte charentaise a été le lieu de départ de nombre de bateaux vers...
Mais mes amis, j'ai beaucoup d'amis québécois, dont certains gens, ils me disent, mais n'oublie pas qu'on vient tous de là. J'avais oublié. Oui, c'est ça.
Et puis vous dites que c'est les retrouvailles entre deux musiciens qui se croisent depuis toujours, ça illustre le propos que vous venez de tenir, et qui se vouent un grand respect mutuel.
Absolument.
C'est important, ça?
Oui. Ah bah oui, c'est ça. Je parlais de confiance, mais en fait, confiance et respect, pour moi, c'est du même ordre. Quoi. Voilà.
Ouais, nous venons de parler de rencontres, etc. Mais finalement, est-ce qu'on pourrait écouter un peu de Duality, Nashoff Project, Five New Dreams?
Avec plaisir.
Allez, allons-y. Thank you. Des retrouvailles, je voudrais qu'on parle aussi de celle avec Alain Blazing, c'est ça?
Oui.
Alors qui c'est?
C'est un guitariste que j'ai connu, on se connaît depuis toujours en fait, hein, ouais. Et qui a beaucoup joué avec une chanteuse turque qui s'appelle Senem Divici, que j'ai connu. Il était plutôt spécialiste des musiques orientales, etc., musique turque. D'ailleurs, j'étais enregistré avec lui et Senem à Istanbul, je ne sais plus à quelle date en fait.
Bref, qu'avez-vous préparé pour nous avec...
Alors justement, c'est un chant traditionnel turc, mais enregistré en duo, là, qui est beaucoup plus récent. Le disque s'appelle L'impermanence du doute. Alors,
L'impermanence du doute, oui. Encore un beau titre.
Oui, mais ça, c'est un titre qui m'est resté dans la tête pendant des années, sans que je sache pourquoi.
Et alors, et que vous l'avez trouvé maintenant?
Non. C'est
l'éternelle question.
Non, parce que c'est le... Comment dire, le...
Vous êtes dans le doute. Permanent.
Oui, déjà. Et puis, je sais pas, impermanence et doute, ça me parlait, quoi. Je trouvais ça génial, quoi. Alors après, on m'a dit que l'impermanence, c'est une notion de yoga ou de choses comme ça. Ce que je ne savais pas, en fait. C'est plutôt le texte qui me parlait. J'ai des...
Vous parlez turc, alors?
Non, pas du tout.
Mais la traduction, peut-être.
Non, pas du tout.
Alors, qui c'est Alain Blazing? C'est un guitariste, c'est un compositeur, avec un parcours très hétérogène. Il mène depuis une vingtaine d'années un travail intense autour des musiques traditionnelles, vous le disiez, occidentales et orientales, avec le quartet de Senem Divici que vous citiez tout à l'heure. C'est une chanteuse, ou avec des formations qu'il dirige, en 11 têtes, ça commence à être un grand ensemble, surtout pour vous, ou même en octet. À la tête de la théorie des cordes, c'est un ensemble de 10 guitares électriques, qu'il a créé en 2008, il renoue avec les grandes formations et montre une attache particulière pour le rock progressif des années 70. Tiens, on revient au début.
On a le même âge, on a ça en commun, oui, effectivement.
L'impermanence du doute, j'y reviens, ce titre pour moi est très très fort, c'est le poids des mots, le choc des sons, tiens,
choc
finalement.
Des sons, oui.
Et il déclare à propos de la musique orientale, à ce Alain Blazing, qu'il prend les éléments de langage qui l'intéressent et il tente de les inclure à son langage. Alors, quel est l'intérêt des emprunts musicaux?
Il est énorme, en fait. Comment expliquer ça? Moi, je dis souvent, j'écoute assez peu de jazz, mais j'écoute des musiques du monde en permanence. Ça veut dire qu'en fait, on a un langage qui se nourrit de ce qu'on écoute. Et moi, par exemple, un exemple tout bête, j'étais... à un moment, je voulais jouer la derbouka, voilà. Je trouve que j'ai des problèmes de doigts, donc ça n'a pas été possible. Donc après, j'ai essayé d'adapter cette technique sur mon instrument jusqu'à ce qu'elle disparaisse, jusqu'à ce qu'on ne s'en rende plus compte. Et un jour, j'ai toujours la même anecdote, il y a quelqu'un qui est venu me voir après un concert, me dit « Ah, musique nawa, là bon. !» Et c'était quelqu'un d'origine maghrébine.
Oui.
Et je dis « Mais tu ne peux pas savoir à quel point ça me fait plaisir. » Parce qu'effectivement... Moi, ma technique, c'était d'intégrer des choses, j'ai fait pareil avec la salsa d'ailleurs, et de les répéter, d'essayer tout ce qui était possible avec, d'interchanger les éléments,
dans l'autre sens, plus,
jusqu'à me l'approprier, à ce que ça sorte spontanément dans l'improvisation, que ce soit plus un truc formel. Quoi.
C'est la notion de partage, d'ouverture, de rencontre, d'enrichissement artistique,
absolument,
finalement.
Absolument, oui.
Alors, on va écouter Trabizon, c'est ça
Trabizon,
le titre?
Oui.
Alors, c'est l'extrait numéro 8 de la... de l'émission, et c'est par Blazing Tokan, c'est ça,
ça.
En 2019. sait qu'est-ce qui va se passer après. Et je voudrais lire ici les mots d'un critique, Denis Desassi. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez lu ce qu'il a écrit sur le sujet de l'impermanence du doute. Alors voilà ce qu'il dit, ce qu'il écrit plutôt. Alain Blazing et Bruno Tocane sont ici tout autant illustrateurs que mélodistes. La guitare est tour à tour atmosphérique, granuleuse, saturée, bruitiste, libérant, quand il le faut, des arpèges aux accents méditatifs à ses côtés, ou parfois face à elle. La batterie roule diffus, polyphonique, pour mieux improviser ensuite le silence par petites touches sur les cymbales. Elle rappelle une fois encore sa force de suggestion. On découvre une composition consistant en une puissante montée en tension qui ouvre la voie à Trabzon, dans la Bizone peut-être qu'on dit, oui. Un traditionnel turc déjà présent avec le duo Tocane-Delaunay et dont l'arrangement était alors signé Blazing. La boucle est bouclée, cette fois il joue. L'impermanence du doute, alors c'est finalement des airs de vérité, un prêté pour un rendu, c'est bien encore d'échange qu'il s'agit, n'est-ce pas? L'extrait suivant, c'est une aventure, en tout cas vous le savez comme ça, vous l'appelez, avec Carla Bley, une aventure musicale, son temps. Allez, parlez-nous de Carla Bley et de cette aventure.
On en parle maintenant?
Comme vous voulez, qu'est-ce que vous préférez?
Oui, bon, écoutons-le.
Alors, on l'écoute d'abord. Oui. Voici... Alors voilà, Bruno, la parole est à vous.
Ah oui, ça c'est une de mes plus belles aventures. Il faut savoir que ça démarre un jour, je vais jouer à Avignon, et mon ami Bernard Santa Cruz, habitant pas loin, était venu me voir jouer. Il me dit, tu sais, tu m'avais parlé d'un projet de relecture de l'opéra emblématique de Carla Bley.
Alors relecture, c'est rejouer, c'est ça?
Oui, rejouer, mais de manière différente. Mm-hmm. Un disque pour notre génération qui est phare, qui s'appelle Escalator Over the Hill, mm-hmm. qui était du jazz compositeur orchestra dirigé par Carla Bley, dans lequel il y avait Ken Carter, qui habite pas loin, qui est pas loin d'ici d'ailleurs. Mm-hmm. Et qui est un disque qui nous a tous marqués, puisqu'il était à cheval justement sur toutes les musiques, c'est-à-dire la pop, la musique indienne, le free jazz, les fanfares. Enfin, c'est un disque complètement incroyable, un double album d'ailleurs, que j'avais fait venir d'Angleterre, enfin un truc. Donc pour moi c'était... mais personne n'osant s'attaquer à un tel monument. C'est un disque qui était enregistré en 3 ou 4 ans, où il y a des montages, des collages, enfin... Mmh. Et donc, moi, j'ai eu la chance de rencontrer Carla Bley une première fois dans un festival où je jouais des choses qui se rapprochaient de Charlie Haddad. Et elle avait demandé à me parler. Et en fait, pour l'anecdote, je ne voulais pas y aller, j'étais au bar. Je me suis dit, bon, là, c'est des Américains. Elle va me dire, vous n'avez pas le droit de jouer des morceaux.
Ouais, elle va râler, quoi.
Oui, elle va râler. Donc, je n'y vais pas. Et on revient me chercher en me disant, tu sais, elle veut vraiment te parler. Elle était avec Steve Swallow. Et je dis bon bah j'y vais, tout ça là. Et elle me dit des choses d'une gentillesse incroyable, elle me dit, ah, c'est génial qu'il y ait des gens qui prennent la relève, c'est super. Je vais demander l'enregistrement de votre concert, j'aimerais bien la voir, etc. Donc ça c'était la première rencontre. Puis quelques années après, donc je reviens à mon ami Bernard Santa Cruz, et il me dit, ben tu sais, on avait parlé de refaire. Je lui dis, oh, bah, oui, mais c'était il y a 10 ans, moi j'ai complètement oublié. Mais oui, si c'est une bonne idée, si on fait ça tous les deux, ça sera peut-être plus facile. Donc c'est parti de là. Ensuite, on a fait un casting tous les deux. Il fallait trouver quelqu'un qui remplace, il y a quand même 8 chanteurs différents sur cet album. Donc le Antoine Lang, qui est un chanteur suisse, qui chante aussi bien de l'opérette que du thrash metal. Il est complètement incroyable, ce garçon, qu'on avait rencontré au fin fond de la Sibérie en tournée. Et donc tous ces gens-là ont accepté, ça a pris beaucoup de temps, hein. C'était long. et jusqu'à donc développer ce... Et pareil, c'était collectif, c'est-à-dire que chacun s'est réparti des arrangements sur...
Chacun s'attache.
Oui, chacun s'attache.
Chacun sa route, chacun son chemin.
Voilà. Allez. Et donc l'apothéose, ça a été quand même le Nevers Jazz Festival où il nous a programmé en première partie de Carla Bley. Oui, quand même. Et entre-temps, j'avais communiqué avec elle en disant
est-ce qu'on peut faire ça?
Oui, puis on avait été la voir dans les loges, je ne sais plus où. On avait été boire champagne avec elle. Et elle m'avait dit, avec Steve Swallow. Mais elle est adorable. Hein. Ouais. Et elle m'avait dit, quand j'avais demandé l'autorisation, elle me dit, mais si tu es assez fou pour le faire, fais-le. Mais il faut être fou quand même. Et en plus, j'avais lu des interviews d'elle, elle disait que du mal, tout ce qui a été fait là-dessus, je n'aime pas, etc. Donc je me disais, bon, là, ça va être quand même. Donc à Nevers, on se retrouve à jouer ce répertoire. Ce qu'on ne savait pas, c'est qu'elle et Steve Swallow étaient backstage, c'est-à-dire en fait sur la scène. Ils avaient même refusé d'aller manger, parce qu'ils étaient censés. L'organisateur m'a dit, ils ont voulu rester pour écouter.
Ouais.
Et quand on a fini, elle est venue saluer avec nous, enfin bon, un espèce de truc qui est totalement inattendu. Elle m'a dit texto, ce qui est quand même fou, elle m'a dit, mais Bruno, je fais pas en anglais, hein, mais Bruno, c'est mieux que ce que j'ai fait. J'ai dit, mais Carla, tu peux pas me dire une chose pas. Mais pour situer la personne que c'est, elle vient de disparaître malheureusement, mais...
En octobre dernier.
Oui, la modestie du personnage et... Enfin voilà, pour moi c'était un des plus beaux jours de ma vie.
Hein. Encore une force de la musique, l'écriture, la rencontre, l'improvisation, la relecture. Et
là,
ce
y a
succès
tout.
Salué par Carla Bley elle-même pour ce sujet-là quand même. Hein. Marcel Canche, ça vous parle?
Oh bah, Marcel, c'est une grande histoire aussi. Hein. Alors Marcel, on s'est rencontré par Crystal Records. En fait, avec Philippe Gordiani, justement, on revient à Philippe Gordiani, on avait fait un disque en trio en hommage à Syd Barrett. Donc un des fondateurs de Pink Floyd. Et Crystal voulait que Marcel enregistre quelque chose sur le répertoire de Léo Ferré. Donc ils ont dit, on ne veut pas que tu fasses du Léo Ferré au piano, que ça va faire, ça va pas le faire, ça va être trop typé, etc. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un disque avec ce trio, qui s'appelle le High Overdrive Trio?
Le High Overdrive.
Oui, c'est ça. Eh oui, oui. Et donc
des sentiers battus encore.
Ah bah oui, oui. Ah bah là complètement. Oui. Et donc je me souviens, j'étais à Moscou, on jouait à Moscou, et sur l'ordi il m'envoie des. Je le connaissais pas, Marcel Canche. Hein. Donc je reçois des musiques de Marcel Canche. On était justement avec Philippe Gordiani et Rémi Godier. Alors je leur dis, les mecs, on a une proposition, c'est super. Je vous fais écouter Marcel Canche. Donc après on s'est rencontrés à Paris. Avec Marcel, au bout de 10 minutes, s'est aperçu qu'on était fans de Carla Bley. Enfin, on écoutait les mêmes choses, en fait.
Hein. Les grands esprits se rencontrent.
Bah oui, même génération, hein, c'est pareil. Hein. Donc, on l'a fait. Donc, on a fait ce disque qui est enregistré aussi à Rochefort, d'ailleurs, qui est donc sur le répertoire de Léo Ferré.
Et alors, ça s'appelle Épilogue.
Ce titre-là, oui, c'est Ferré qui l'a appelé Épilogue, ouais. Et le disque s'appelle « Et 21 mecs d'outre-saison ».
Alors Épilogue, c'est vous qui le dites, Bruno, ou qui le jouez plutôt, parce que certes, nous approchons de la fin de l'émission, mais pas encore. Et nous avons le temps d'écouter Marcel Canche, et d'autres, peut-être, Bruno Tocan, Philippe Gordani à la guitare, Rémi Godier à la trompette,
c'est ça.
Et voici Épilogue, Marcel Canche, and Friends.
Marcel, allez donc parler à ceux qui se lèvent. Car moi, maintenant, je ne vivrai que la nuit. À ce soir. Je voudrais que tout s'arrêtât là, du temps compté des hommes. Je voudrais que cette vie s'en aille comme la mer s'en va là-bas, sur les épaules dénudées de ces rochers en robe de soirée. Rien qu'un moment, rien qu'un temps. Juste le temps de leur laver le sel et de leur prendre ces néons sur la place très haut. Ces néons de notre vie de mécanique à 10 000% et à tout ce que tu peux inventer pour leur faire la main et leur couper les plombs et les mettre dans l'ombre de notre amour en cas de besoin. Je voudrais être l'évangile de la nuit et de l'ennui en ces temps des Pershings dans la province de Moscou.
Bon, Bruno, un petit mot supplémentaire sur le...
Oui, parce qu'en fait, on ne se rend pas compte comme ça, mais la difficulté de s'attaquer à un répertoire de Léo Ferré, c'est-à-dire le sortir de...
De ce qu'on a l'habitude d'entendre.
Oui, c'est extrêmement compliqué. Surtout, ça a été difficile pour Marcel et moi, pas question de génération, parce qu'on était tous les deux des fans de Léo Ferré. Et donc, moi, je lui disais, j'arrive pas à sortir de ce que je connais de Léo Ferré. C'est extrêmement difficile de me demander de faire autre chose.
Sortir de ses habitudes,
oui,
sortir
de sa
zone de confort, peut-être.
Oui, ouais, comment dire, de trahir un peu le... Et alors, la chance qu'on avait, c'est que Rémi et Philippe sont beaucoup plus jeunes.
Donc, Rémi Godilla ouais, et Philippe Bordani. Oui.
Et pas du tout Ferré. Quoi. Donc, ça nous a beaucoup intéressé de dire, bah, finalement, eux, ils sont plutôt vierges de ça. Ils vont faire des propositions.
Qu'est-ce
qui vont
qu'ils en feraient
ouais.
Et du coup, effectivement, l'ouverture. Bien
voilà.
Sûr.
Et on l'a amené ailleurs, en fait. Et il faut dire, on a énormément joué hein, ce répertoire. On a eu des fans de Ferré qui nous ont quand même bousculé, hein, qui n'étaient pas contents qu'on touche.
Mais peut-être que d'autres avaient apprécié relecture
oui,
là,
oui,
encore.
Mais en grande majorité. Hein, oui.
Alors Marcel Canch est un auteur, c'est un compositeur et interprète français. Il est né, il a grandi en Touraine, il s'intéresse à la peinture, il étudie aux Beaux-Arts dans la ville du Mans, il entame des études de musicologie, puis il se lance dans la chanson au milieu des années 70 au sein d'un groupe expérimental, ça s'appelle Un Département, je crois, oui. Entre post-rock et avant-garde jazz. Il joue aussi dans divers groupes punk, ce qui lui permet de rencontrer les Rita Mitsouko, Père Ubu, Alain Veiga ou The Cure. Si ce n'est pas d'éclectisme, ça, alors ça y ressemble. Parallèlement, il écrit aussi pour Mathieu Chédid, pour Vanessa Paradis et pour Axel Bauer. Il vit dans le pays mélois, c'est presque notre voisin. Alors s'il nous écoute, Marcel, tu peux venir dans l'émission. Il n'y a pas de problème, vous serez invité, vous serez bienvenu. Et puis, Evin, un mec d'outre-saison, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est le titre du...
C'est le titre de l'album.
Ouais, ouais. Un mec d'outre-saison. Ouais. Alors l'outre-saison, qui c'est Bruno Tocane, c'est Marcel Canch, c'est Ferré, c'est les trois.
C'est Ferré, c'est Ferré, je pense.
C'est Ferré. Ouais. C'est un titre farfelu, mais avec un sérieux dissimulé. En tout cas.
C'est un beau titre aussi, moi j'aime bien. Oui, oui.
Ouais. Je ne peux m'empêcher, Bruno, en lisant plusieurs des titres que vous nous proposez aujourd'hui, de penser à Eric Satie et à ses compositions, mais avec les titres et les annotations qu'il mettait lui-même sur ses partitions, c'est souvent surprenant. L'extrait suivant, c'est une rencontre avec un pianiste charentais qui a déjà été l'invité de cette émission. Didier Frébeuf.
Absolument, oui.
Comment ça s'est passé, cette rencontre?
Eh bien, je l'ai rencontré relativement vite quand je suis arrivé ici. Il faut dire qu'il n'y a pas non plus des centaines de musiciens, donc c'est plus facile.
Qu'est-ce que vous voulez dire?
Ah, mais non, c'est pas du tout un reproche. Il y en a des super, en plus. Ouais. Mais non, mais c'est contrairement à la région parisienne où il y a énormément de monde, c'est plus facile de se rencontrer. C'était ça, c'était plutôt dans ce sens-là.
Tout le monde se connaît en Charente.
Oui.
Et d'ailleurs, vous avez vu que c'est une terre d'accueil de plusieurs musiciens.
Oui,
vous
oui.
parlez de Tim Carter.
Il y a Escoudé aussi.
Il y a un certain Bruno ouais. Tocane. Enfin, ouais.
Christian Escoudé, qui n'est pas des moindres.
Un guitariste ouais, vers Saint-Amand-de-Boix, bien sûr. Alors donc, revenons à la rencontre.
Alors, cette rencontre a une histoire aussi, parce qu'en fait, je devais enregistrer chez Ken Carter, d'ailleurs, puis ça s'est fait chez Ken Carter, en trio avec Denis Badeau et Fred Roudet. Il se trouve que Denis, il m'a appelé 15 jours avant en disant « Je me suis fait tomber un radiateur sur la main gauche. » Il est pianiste, hein, quand même. Donc, ça ne va pas être possible. Donc, je raconte ça à Didier. Il me dit « Puisqu'on a réservé, tu as réservé le studio, pourquoi est-ce qu'on n'enregistre pas ensemble ?» Je dis « C'est une super idée, effectivement. » Voilà l'histoire de départ. Et puis, il se trouve que, en fait, ça a parfaitement fonctionné. Et que je suis très content, en fait, d'avoir fait ce disque avec lui.
Et vous avez enregistré directement ou vous avez préparé avant?
Rien.
Ah ah.
Non, non, celui-là est totalement... Alors j'ai fait ça avec plusieurs pianistes, ils ne sont pas là, mais il y a plusieurs pianistes. J'en ai fait un avec un pianiste qui s'appelle Henri Roger, et deux là, qui a très très bien marché, qui a été très bien reçu. Et à partir de là, il y a plusieurs pianistes qui m'ont demandé de venir enregistrer en duo avec eux, ou Alain, ou Blazing en... Enfin voilà, je me suis spécialisé dans les improvisations en duo. J'aime bien.
Alors je crois qu'il vous arrive, avec Didier, mais avec d'autres, de produire des objets sonores, je vais dire, inhabituels. Par exemple, un batteur, a priori, ça bat, ça tape.
Oui.
Mais pour vous avoir vu jouer avec Didier Frébeuf, notamment, il vous arrive d'utiliser d'autres
l'archer,
objets par... inattendus. Oui. Par exemple, l'archer. Oui. Alors comment vous en servez?
Mais c'est récent, hein. Ça m'a pris... Il y a, je sais pas, il y a 4-5 ans, tout d'un coup, je me suis dit, tiens, mais ouais, ça se fait depuis longtemps. Hein, mais voilà. Ça,
donc
ça,
avec l'archi, on frotte.
Bah, on frotte le bord de la, On a les harmoniques de la cymbale.
Ah, absolument.
Et c'est
absolument
toujours inattendu. Ouais. En fait, non, ça date d'un autre quartet. Si on a le temps d'écouter, s'y songe. Mmh. En fait, je travaillais avec Antoine Ling. Non seulement il chante, mais il a des effets électroniques. Et je lui avais dit, écoute, moi ça m'intéresserait, je suis nul en électronique et tout ça. Et par contre, je voudrais bien que quelqu'un traite mes sons en direct. Enfin, et d'où l'archet, en fait, et lui traitait. Donc ça donnait des trucs auxquels je ne m'attendais pas du tout. En fait, c'était assez...
Et je crois que Didier, je le salue, hein, s'il nous entend, il agit de même avec le piano. Hein, il fait des sons ou des manières de
jouer. Ah, oui.
On appelle ça le piano préparé.
Oui.
J'ai vu ça dernièrement grâce à un festival que pilote Alice Rosset. Et son équipe, je les salue. Et puis Alice, ben, elle sait qu'elle est invitée quand elle veut, évidemment. Si on écoutait un petit peu de fake news, ça va être des real news quand même,
oui.
des vraies nouvelles avec Ça n'empêche pas le vacarme. Ça n'empêche pas le vacarme, mais il n'y a pas de vacarme du tout, en fait. Finalement, il est empêché.
J'étais en train de me dire, bah, c'est encore du roubateau. Hein,
je
crois que j'aime vraiment ça. Oui. Moi, je peux écouter ça, en fait, pas moi, hein, j'aime pas m'écouter, mais ce type de musique, je peux écouter ça pendant des heures sans que ça me lasse. Quoi. Donc, voilà.
Alors, merci à vous et merci à Didier aussi.
Oui, un grand merci à Didier.
Avec Stéphane sur RDC pour Donnez-nous vos notes. RDC 93.4, 92.5, il est l'heure de découvrir le nom de l'auditrice ou de l'éditeur qui a gagné au jeu du jour. Je rappelle la question. La question c'est, ou c'était, dans quelle ville Bruno Tocan est-il né? La réponse est donnée par Bruno Tocan lui-même, himself.
Paris.
Eh oui, il est né à Paris. Et c'est Josette de Champagne-Mouton qui a gagné aujourd'hui. Qui a gagné quoi? Un CD ou un DVD et l'invitation à participer dans une prochaine émission de Donnez-nous vos notes, RDC 93.4 et 92.5. Bruno, voilà déjà l'avant-dernier extrait pour aujourd'hui. Six songs, c'est
ouais,
ça?
Oui.
Qu'est-ce que c'est que six songs?
Ah, six songs, c'est alors un disque consacré, enfin, je veux dire, autour de la musique de Robert Wyatt, enfin, même pas de la musique de Robert Wyatt, d'un disque de Robert Wyatt, aussi emblématique que Escalator of the Hill, qui est Rock Bottom, qui est pareil, qui a marqué toute une génération de musiciennes et de musiciens. Et donc, c'est le seul morceau de Wyatt qu'on a repris. En fait, tout le reste, ce sont des compositions originales. Pas, j'allais dire, pas à la manière d'eux, mais dans l'ambiance particulière de Ziz de Wyatt. Avec des chansons, d'ailleurs, signées Marcel Kanch. Certaines, il y a deux ou trois chansons qui sont signées Marcel Kanch. Mais là, je vous ai choisi l'extrait de cette chanson de Robert Wyatt, qui est une de mes chansons.
Avec Antoine Ling. Antoine Ling à la voix, vous en parliez tout à l'heure.
Oui.
Et aux effets, c'est ça?
Aux effets, oui.
Des effets vocaux, des effets par rapport à la
voix. Il a des effets électroniques, en fait.
D'accord.
Il a toujours
des
effets.
Des transformations, finalement,
oui, ça,
de timbre.
En direct.
En direct. Oui. Ah, voici six sons. Maintenant. la chanson de la mer.
You look different every time you come from the foam crested brine. Your skin shining softly in the moonlight. Partly fish, partly porpoise, partly baby sperm whale. Am I yours? Are you mine to play with? Joking apart when you're drunk, you're terrific when you're drunk. I like you mostly late at night.
Particulière de l'album Rock Bottom, dites-vous.
Ah, oui.
Particulière, qu'est-ce que c'est-à-dire ?
Bah, c'est lunaire, hein. C'est complètement lunaire cet album. Hein. Bah, la chanson en donne une idée. Hein. C'est le plus proche, en fait, les autres sont un petit peu plus éloignés. Mais d'abord, c'est un très beau texte, ensuite, c'est une mélodie qui est absolument magique.
Enfin, on est transporté très vite.
Hein. Ah oui, oui, c'est. Et pareil, il fallait avoir du culot pour faire ça. Et je ne regrette pas parce que j'ai une carte postale de Robert Wyatt qui m'a envoyé une petite carte postale en disant que, bon, qu'il était content, que ça lui plaisait, etc. Parce que moi, c'est important pour moi, c'est que je parlais de Carla Bley, je ne veux pas faire des choses
qui déplaisent aux auteurs.
Oui, ni qu'il soit obséquieux, parce que je ne suis pas ça et je déteste l'obséquiosité, ni qu'il les mette mal à l'aise. C'était important pour moi d'avoir le raval. Et puis, c'est mes idoles d'ado. Hein. Enfin, donc, c'était important pour moi à la fois de leur rendre hommage et à la fois...
On revient au modèle, quelque part. Hein.
Oui, contrairement à ce que je crois. Mais non, mais bien sûr.
Finalement,
oui.
Quand on regarde dans le rétroviseur,
oui,
on se
oui.
dit, mais bon sens.
Mais Franck Bergerot, là, qui était donc un directeur à Jazz Magazine, il disait, quelque part, entre Paul Mossian et Robert Wyatt, c'était il y a 20 ans, donc j'ai pas changé, en fait, je me sens quelque part entre les deux.
Continuité, transmission, c'est important la transmission.
Oui, puis à un moment donné de sa vie, d'assumer, en fait, à partir du moment où... Ces disques-là, Sissonge et Overzul, c'est une façon d'assumer d'où je viens et pourquoi je suis là. En fait.
Certains musiciens, j'ai oublié le nom, mais se définissent comme transmissionnaires. J'aime
oui,
beaucoup le
moi
terme.
Moi, je dis vecteur d'émotion, mais ça, c'est la même chose.
Part, oui, oui. Quelque part, ça se ressemble.
Oui, oui, oui.
Ah, vous savez, Bruno, on arrive au dernier extrait et on va reparler de Marcel.
Et oui.
Marcel, juillet 94. Pourquoi 94 ?
Parce que c'est un recueil de textes qu'il avait écrit en juillet 94, tout simplement, qui n'avait jamais été... Si, ça a été publié, et en fait, ça a brûlé dans sa maison, en fait, les textes. Donc, il n'avait pas été publié, et il n'y a pas très très longtemps, je ne sais plus, 2018, il a voulu enregistrer. Ce qui est spécial, c'est que c'est lui qui a la guitare, alors que ce n'est pas non plus son instrument de prédilection. Mais il avait envie d'essayer ça.
Donc il chante et il l'accompagne il joue la guitare.
Ouais, ouais.
Il y a Fred Roudet à la trompette.
Voilà, et moi à la batterie.
Et batterie et percussion. Ouais. Vous faites une différence finalement entre batterie et percussion ?
Non.
Non ?
Non, non. Non, non, non. Bah, percussion, ça veut dire qu'on sort un peu du cadre de la batterie instrument, donc il y a d'autres éléments. Mais en fait, je pourrais mettre que batterie ou que percussion.
Ouais. Et le titre qu'on va entendre, ça s'appelle comment ?
Dieppe,
c'est le titre. Pourquoi ?
Bah parce qu'il adore Dieppe. Uh-huh. C'est un fan. Puis en fait, c'est des balades qu'il a fait, donc des textes qu'il a écrits
en fonction des lieux. Balades géographiques, physiques et balades musicales. C'est le lien entre balades avec un L ou avec deux L.
Oui, oui.
Alors pour moi, je vais vous dire, franchement, Dieppe, ça évoque une ville agréable. On a au moins ça en commun avec Marcel Canche. Un port, un port qui relie la France à l'Angleterre, pour en passant par New Haven, m'emmener sur le chemin du sud-ouest anglais, c'est-à-dire les Cornouailles. Tiens, je vais oser dire mes Cornouailles. Tiens, il y a peut-être un lien avec Sissonge quelque part.
Oui.
On traverse la mer, c'est de l'au-delà, c'est un autre lien, c'est une forme de voyage. Tiens, je vous parle d'un autre voyage ou d'un cycle. Il paraît que Marcel Canche est né dans une maternité qui est devenue, vous savez quoi, une maison de retraite. Est-ce qu'elle est à Dieppe ou pas? Voici Dieppe, Marcel Kanch and Company.
Son regard est insupportable à ceux qui la voient et qui ont peur. Il faut coller ce jour sur le pied, ramper debout.
Sont bizarres.
Ah, ça me fait rire. En fait.
Pourquoi?
Mais parce que je connais bien Marcel.
C'est un personnage?
Oui, c'est un personnage absolument fascinant. Et je comprends le... Enfin, c'est Destroy quand même. Hein. Mais moi j'adore. Hein. Mais il faut savoir qu'il n'a jamais voulu qu'on fasse de scène avec ce disque.
Pourquoi?
Parce qu'il le disait, moi je ne suis pas un vrai guitariste, etc. Mais je dis, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que tu nous amènes dans un truc complètement étrange, quoi, complètement... Enfin voilà.
Des choses qu'on ose montrer, je généralise, hein, au-delà de ce que dit Marcel Kanch, et des choses qu'on n'ose pas montrer, il y a des choses que vous n'avez jamais jouées en direct ou en enregistrement? Et que vous avez pourtant travaillé ou...
Oui.
Ouais, beaucoup. Oui,
beaucoup. Il y a un disque que j'ai... Je sais que je n'ai pas produit.
Il y a un disque qui est dans le tiroir du fond.
Ouais, ouais. Mais je ne sais pas pourquoi, à la fin, j'ai dit non. C'est la seule fois où c'est arrivé, effectivement.
Mais peut-être qu'un jour, on l'entendra sur les
ondes.
Non,
parce que je ne sais même plus où je l'ai mis. J'ai dû le planquer quelque part.
Ah, bon, on en reparlera tout à l'heure pour votre prochain passage.
D'accord.
Dans Donnez-nous vos notes, RDC 93.4, 92.5.
Il est l'heure de Donnez-nous vos notes avec Stéphane sur RDC.
Eh oui, c'est l'heure, mais c'est l'heure de la fin, Bruno, c'est presque la fin du superbe voyage musical dans lequel vous nous avez magnifiquement guidé aujourd'hui. Merci beaucoup de votre passage dans les studios de RDC.
Merci
comme invité de l'émission Donnez-nous vos notes, que j'ai le plaisir et l'honneur d'animer. J'ai beaucoup apprécié vraiment les notes que vous nous avez données, que vous nous avez offertes. J'espère qu'il en a été de même pour les auditrices et les auditeurs, toujours plus nombreuses et nombreux à suivre l'émission, à apprécier le parcours de chaque artiste qui sait donner ses notes. Ce matin, Bruno, en vous ouvrant à nous, vous nous avez fait découvrir un musicien de talent, un homme curieux des autres, un être généreux, un passeur d'émotions. Merci, Bruno. Auditrices, auditeurs, je vous remercie sincèrement de votre fidèle écoute et puis des témoignages de satisfaction que vous adressez à RDC après ou avant chaque émission. Merci à celles et à ceux d'entre vous qui ont participé au jeu du jour. Bravo aux gagnants. Josette de Champagne-Mouton, qui a gagné un CD, un DVD, une invitation à participer en tant que spectatrice à une prochaine émission de la série Donnez-nous vos notes sur RDC 93.4, 92.5. Bruno, dans la continuité des autres invités qui ont donné leurs notes sur cette antenne, vous avez superbement parlé de votre parcours musical, artistique, avec des anecdotes qui le rendent authentique, avec des moments de votre vie qui y sont liés à vous. Merci encore, bravo aussi.
Merci encore à vous surtout. Oui.
Et puis rappelez-vous que rien n'empêche dans quelques temps une deuxième visite, un deuxième passage dans l'émission Donnez-nous vos notes, peut-être avec un CD pour l'instant caché. Nous vous recevrons à nouveau avec plaisir, soyez-en persuadés. Et pourquoi pas en duo avec un certain Didier Frébeuf, merveilleux pianiste charentais qui a été comme vous l'invité de l'émission Donnez vos notes, RDC 93.4, 92.5. Un mot encore pour remercier Jean-Marc de l'apport de son savoir-faire technique au bénéfice de la meilleure écoute des auditrices et des auditeurs, et pour accompagner l'animateur que j'ai le plaisir d'être. Auditrice, auditeur, au revoir, à bientôt, je l'espère. Le 28 décembre, même lieu, même heure, c'est un couple qui sera l'invité de Donner Nouveau Note sur les ondes de RDC, un couple de danseurs, couple à la ville et à la scène, tous deux professeurs de danse, Florence Valette-Chariot et Bruno Chariot. Ils nous diront tout des notes qu'ils nous donnent et peut-être qu'ils nous feront danser, allez savoir. Autre parcours, bien sûr, autre histoire aussi, toujours la même passion, celle de la musique, celle du partage, celle de la rencontre, celle de l'échange. Bruno Tocan, au revoir et à bientôt peut-être, ou plutôt non, à bientôt sûrement, merci encore.
À très bientôt.
N'oubliez pas de nous faire encore et toujours voyager grâce à la musique. Merci aussi beaucoup et d'avance pour ça, Bruno Tocan. Je rapporte ici quelques propos écrits sur votre parcours, des mots qui nous font finalement qu'ancrer le voyage auquel vous nous avez invités aujourd'hui et auquel vous nous invitez depuis toujours. Sur scène, dans des groupes rock et plutôt pop rock, c'est en compagnie du pianiste Laurent Cuny, rencontré au lycée, que Bruno Tocan commence à s'intéresser au jazz et aux musiques improvisées. Et je conclue, Bruno, j'espère que vous serez d'accord, depuis ce top départ, en avant, feu partout, pour reprendre une formule désuète mais parlante, je crois que l'on entend dans un air de la vie parisienne, cher à Jacques Offenbach, autre parisien d'adoption celui-là, ce voyage ne s'arrête pas, ne s'arrêtera jamais. Au revoir Bruno.
Au revoir.
Merci. Jean-Marc, au revoir et à bientôt, évidemment avec plaisir. Je sais que tu feras tout pour que le podcast de l'émission soit disponible dès lundi prochain sur le site de RDC. Merci déjà pour ça. Jean-Marc, tu peux lancer le générique car pour aujourd'hui, sur les ondes de RDC 93.4 et 92.5, Donner Nouveau Note, c'est fini. Donner Nouveau Note, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup à l'invité d'avoir accepté de nous donner ses notes. Merci à l'invité d'être venu nous donner ses notes sur les ondes de RDC, Radio Diffusion Charentaise, 93.4, 92.5. C'était « Donnez-nous vos notes », une note, des notes, donnez-nous des notes, des bonnes notes, donnez-nous des bonnes notes, rien que des bonnes notes, donnez-nous vos notes. Passeurs et passeuses de rêves, donnez-nous vos notes. Passeuses et passeurs d'émotions, donnez-nous vos notes. Musiciens, musiciennes, magicien des sons, magicienne des sons, magicienne des mots, magicien des mots, donnez-nous vos notes. Chanteurs ou chanteuses, instrumentistes, en solo comme en groupe, donnez-nous vos notes. Donnez-nous vos notes, c'est fini. C'est fini pour aujourd'hui seulement. Chers auditeurs, chères auditrices, nous aurons bientôt le plaisir de recevoir un nouvel invité ou une nouvelle invitée, et pourquoi pas un groupe d'invités. Alors, à vous toutes, à vous tous, je donne rendez-vous pour la prochaine émission de Donnez-nous vos notes sur les ondes de RDC, Radio Diffusion Charentaise, 93.4, 92.5. Qui voudra bien nous donner ses notes ? Merci à Jean-Marc pour la technique apportée, assurance de qualité tout au long de l'émission, et surtout, merci à vous, auditrices et auditeurs, de Donnez-nous vos notes. À bientôt, pour moi ce sera encore une très grande joie. Alors oui, à bientôt pour une prochaine émission de la série Donnez-nous vos notes. Voilà, c'est la fin.